France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Impie au siècle des Lumières, les philosophes face au sacrilège. Ah, la terrible affaire du chevalier de la Barre, exécuté âgé seulement de 20 ans, condamné à mort pour sacrilège exécrable et abominable, pour impiété, pour blasphème. Les juges ont-ils été trop sévères? Que signifie blasphémer au moment où les philosophes s'agitent? Et d'ailleurs, celui ou celle qui blasphème s'en prend à qui? À la divinité ou au roi? Aujourd'hui, dans le siècle de l'histoire, nous sommes un peu impies.
Jurez sur la Bible de dire toute la vérité.
Je jure.
Un hérétique n'est pas un blasphémateur. C'est-à-dire, un hérétique manifeste une divergence d'opinion.
Que faites-vous dans là avec Charlotte? Est-ce que vous lui parlez d'amour aussi?
Non, au contraire, c'est elle qui me témoignait une envie d'être ma femme et je lui répondais que je désavoue.
Il ne faut pas rire.
Grâce au ciel.
Restons-en à la procédure.
Combien de temps avez-vous habité le couvent des dames religieuses d'Abbeville?
3 ans et demi.
La religion, c'est l'opium du peuple. On va rester ainsi jusqu'à la fin du monde.
Le cours de l'histoire.
Valentine Zuber, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, directrice d'études à l'École pratique des hautes études. Et Alain Cabantous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite à l'Université Paris, en Panthéon-Sorbonne. Et avec vous deux, nous allons explorer un petit peu cette idée du blasphème. Le Moyen-Âge est terminé, nous lui accolons souvent une étiquette sombre et obscure. Mais nous savons bien, les condamnations des sorcières, c'est plutôt sous Louis XIV. La question du blasphème, est-ce que c'est une vraie question encore au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle? C'est quelque chose qui préoccupe les contemporains?
À défaut de préoccuper véritablement les contemporains, ça préoccupe encore la monarchie et le roi qui prononce un serment lors de son sacre de lutter contre l'hérésie et contre les blasphémateurs. Et donc, parfois, il va continuer à pratiquer cette recherche de la lutte contre ces blasphèmes. Et donc, il va y avoir encore des accusations et des procès pour blasphème au XVIIe et au XVIIIe siècle.
Nous sommes dans la continuité de ces ordonnances royales médiévales, hein, de Philippe Auguste, de Saint-Louis, tant d'autres, qui sans cesse répètent la condamnation du blasphème. Vous venez de dire que c'était au moment du sacre, d'ailleurs, qu'il le disait. Ça veut dire qu'à chaque fois, on rappelle cette idée. C'est une des missions du roi, condamner le blasphème.
Oui, même à chaque avènement, il y a une ordonnance qui est prise qui condamne le blasphème et l'hérésie. Donc, je veux dire que c'est, comme disait Valentine Zuber, il y a une espèce de réitération du phénomène, y compris à l'époque de Louis XV et Louis XVI. Même Charles X voudra faire la même chose, mais enfin bon...
Au XIXe siècle, la Révolution sera passée par là avec Charles X, donc sans doute les choses ont bougé, mais moi ce que j'aimerais bien comprendre...
Pas tellement
en fait, c'est vrai, hein, c'est ça qui est important à souligner, c'est pour ça que je voulais replacer cette histoire du siècle des Lumières sur un temps beaucoup plus long, parce qu'on voit qu'on est dans cette longue continuité, cette répétition des choses, mais la notion même de blasphème est complexe, parce que... C'est quoi un blasphème? Personnellement, qu'est-ce que je risque? Alors, si je dis dans la rue « crénom de Dieu », c'est un blasphème?
C'est... Non, c'est pas un blasphème, c'est un juron.
C'est un juron, voilà, ça se passe bien. À partir de quel moment on risque d'être condamné pour le blasphème?
Alors, ce qui est compliqué, c'est que la définition du blasphème est quelque chose d'assez plastique, en définitive, hein, d'assez élastique, dans la mesure où lorsqu'on veut... condamner vraiment quelqu'un, on va bien sûr trouver un mauvais mot ou un blasphème. Mais globalement, enfin, si je m'en tiens au traité de théologie morale, qui traite du blasphème, mais jamais de manière très très exhaustive, hein, c'est accorder ou donner à Dieu ce qu'il n'est pas, ou dire de Dieu ce qu'il n'est pas. Alors, si vous dites, par exemple, Dieu est mauvais, ça c'est un blasphème. Nom de Dieu, c'est pas un blasphème.
Voilà. Ouais, c'est important de le savoir, non, mais c'est pour éviter les problèmes.
Voilà. Ceci dit, il y a une législation pour les jurons qui utilisent le mot de Dieu, hein, c'est souvent dans la réitération de ces jurons que l'accusation se fait plus précise et qu'il peut y avoir des poursuites.
Si on dit j'arnie Dieu, c'est-à-dire je renie Dieu, là, ça passe mal, quand même.
Ah oui, oui, oui. Et c'est pour ça que on avait demandé. Coton, le confesseur d'Henri IV, lui avait dit « préférez Jarny Coton Et c'est devenu d'ailleurs à un moment
ça vient de là.
Une expression, jarni coton, c'est plutôt que jarni Dieu.
C'est pour ça aussi qu'on a mis du bleu un peu partout à la place de Dieu, hein, les
voilà,
sacres bleus.
C'est une euphémisation permanente, hein, comme nom d'une pipe par exemple, au lieu de dire nom de Dieu. Hein.
Ah, tout simplement, en fait. Donc, alors voilà, nous sommes là sur la frontière entre le juron et puis le blasphème, parce que, et vous l'avez bien dit, Alain Cabantou, c'est dire quelque chose de Dieu qui ne correspond pas à Dieu. On en est là. Il y a une autre frontière qu'on doit pouvoir essayer de définir. Elle est difficile aussi. À quel moment passe-t-on à l'hérésie? Est-ce que blasphème, hérésie, ça pourrait être proche, parfois?
Bien sûr, c'est proche. Puisque l'hérésie, c'est la malcroyance. Et donc... En même temps, cette malcroyance apparaît comme, pour un certain nombre de juges, notamment je pense aux juges des inquisitions espagnoles ou italiennes, la malcroyance apparaît comme une circonstance atténuante par rapport au blasphème, en disant, bon, il a blasphémé, c'est proche de l'hérésie, c'est parce qu'il ne connaît pas, c'est parce qu'il y a une inconnaissance... Du fait religieux, il y a une inconnaissance de la théologie, voilà. Et ça, c'est un élément qui est important. Ce que je voudrais ajouter, c'est qu'à propos de cette plasticité du blasphème, on se rend compte que c'est pas seulement à l'égard de Dieu, c'est aussi à l'égard, évidemment, de la Vierge, à l'égard des saints et à l'égard des hommes d'Église, qu'ils soient d'ailleurs prêtres catholiques ou pasteur protestant, parce que on se rend compte quand on travaille dans les juridictions protestantes que on poursuit aussi des gens qui ont blasphémé contre le pasteur. Hein.
Oui, tout le monde peut être victime de blasphème dès qu'il est question de religion, et ça permet peut-être de rappeler combien la religion est omniprésente dans ces sociétés-là, par le calendrier, par les messes, dans la rue, les croix, les statues de saints.
Et les processions.
Les processions aussi. C'est très important de le dire, parce que ça nous permet aussi de comprendre comment le blasphème peut arriver assez facilement. Tout est religieux, tout doit avoir une lecture religieuse dans
oui,
ce monde-là.
Et donc toute atteinte au religieux est une atteinte à l'ordre social. C'est ça aussi, c'est qu'il y a une confusion entre les deux.
Et oui.
Et à l'État. Et à l'État.
Et le roi arrive ici,
voilà.
Attention.
C'est aussi cette confusion. Alors, dans ce que vous disiez, pour les auditeurs, c'est effectivement très important de voir que le religieux est partout. Mais ce qui est important à dire aussi, c'est qu'il y a une association du politique et du religieux. Donc, attaquer le religieux, c'est attaquer le politique. Attaquer Dieu, c'est attaquer le roi.
Et le roi de droit divin.
Et voilà. Et donc,
Cette notion du crime de lèse-majesté divine, oui. De lèse-majesté royale qui s'interpénètre. Oui. Et on peut considérer que les hérétiques ou les blasphémateurs sont des faux monnayeurs, ce qui est l'acte le plus répréhensible dans cette société.
Le crime de lèse-majesté par rapport au blasphème, on aurait deux voies parallèles. On aurait envie de dire le blasphème, ça c'est la question religieuse. Le crime de lèse-majesté, c'est la question qui concerne le pouvoir royal. Et Alain Cabantou, vous me dites non.
Non, parce que dans les textes, on a bien crime de lèse-majesté divine et majesté royale.
Et ça, c'est un blasphème, le crime de lèse-majesté divine?
Ah ben, un crime de majesté... Oui, bien entendu. Hein, le blasphème est désigné comme un crime de lèse-majesté divine et de lèse-majesté royale.
En ayant défini le blasphème en disant que c'est pas possible de le définir, comme ça, au moins, c'est très plastique.
Oui, mais c'est quand même un crime religieux qui est un crime politique. C'est ce qui ressort finalement de cette incrimination. C'est que c'est à la fois religieux et politique.
Oui.
C'est ce mélange-là, hein, mais c'est cette société qui nous intéresse, cette société des XVIIe siècle, des XVIIIe siècle, qui mêle les deux. On ne peut pas séparer le religieux et le politique. Non. Dès lors, le blasphème ne peut être que politique. C'est comme ça qu'on peut le concevoir. Hein.
Ah, il est aussi religieux, hein. Il ne peut pas être que politique. Il est aussi religieux dans une acception. Quand vous dites Marie est une putain, c'est un blasphème quand même.
Avant tout, bien sûr.
Voilà.
Mais là, vous êtes condamné par qui, alors?
Alors, on est condamné par la justice royale et pas par la justice ecclésiastique. C'est ça qui est intéressant, au moins en France, hein. Voilà.
Oui, mais d'ailleurs, c'est une pratique qu'on oublie trop souvent. Les procès inquisitoriaux sont des procès sur la doctrine, sur ce qui a été dit, mais en revanche, les peines, elles sont administrées par la justice civile. Donc il y a une collaboration très étroite.
Ah oui, vraiment, on voit bien qu'on ne pourra pas, et tant mieux, parce que c'est ça qui nous permet de comprendre ces sociétés-là, séparer le politique du religieux. Alors imaginez quand à Versailles, il est question de Dieu devant le roi.
J'ai démontré ce soir l'existence de Dieu. Mais je pourrais tout aussi bien démontrer le contraire quand il plaira à Sa Majesté.
Tu finiras à la Bastille, j'y veillerai, philosophe.
Majesté, ça n'était qu'un trait d'esprit.
Quelle impiété devant le roi.
Un philosophe fanfaron, il est toujours dit.
Échouer si près du but.
Ah, madame! Madame, le roi semble manquer d'esprit aujourd'hui. J'espère que vous saurez plaider ma cause.
Je ne peux plus rien faire pour vous, mon
ami. Mais le trait est spirituel, je comprends pas, mon insuccès.
L'art vil courait de briller en restant à sa place.
Bernard Giraudot, Fanny Ardant, Jean Rochefort, dans le film Ridicule de Patrice Lecomte en 1996. Alors là, cet abbé qui fait un prêche, disons qu'il est capable de démontrer l'inexistence de Dieu. Voilà, bon, on coche toutes les cases de l'horreur. Hein. On a du blasphème, de l'impiété et de l'hérésie même.
De l'apostasie même.
L'apostasie. Bon, ça va mal se passer pour lui, évidemment. Hein.
Et puis cet esprit, enfin, ça témoigne du développement de cet esprit libertin qui se permet de douter de tout, y compris de l'existence de Dieu, et de manière très mondaine.
La scène se passe à la fin du XVIIIe siècle. On est vraiment à la fin de l'Ancien Régime, mais ça, personne ne le sait encore. L'évolution de la pensée, ça joue aussi beaucoup pour la compréhension du blasphème. La définition est très difficile du blasphème. Malgré tout, les juridictions sont obligées d'appliquer des peines, de savoir ce qui est blasphème et non blasphème. C'est ça qui est important aussi de comprendre. Comment les juges regardent ces accusations de blasphème? Parce qu'on vient leur rapporter, on leur dit quelqu'un a dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. C'est comme ça que ça se passe. Il y a toujours dénonciation pour qu'il y ait un blasphème.
Alors, il y a une dénonciation. Il y a même des fois des incitations à dénoncer, puisqu'on paye les dénonciateurs. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le blasphème, c'est un outrage public à Dieu. Public. Autrement dit, il faut qu'il y ait un certain nombre de témoins. Et je pense que tout à l'heure, on reparlera de la barre. Ça pose là un vrai problème. Par rapport à ça, évidemment, les juges instruisent instruisent secrètement un dossier, et ensuite, condamnent ou ne condamnent pas, en fonction de la défense de l'accusé, la personne. Ce qu'il faut retenir, c'est que, au XVIIIe siècle, puisqu'on parle du XVIIIe siècle, on a de moins en moins de gens qui sont condamnés pour blasphème. On n'en a jamais eu beaucoup, d'ailleurs. Hein. C'est vraiment une catégorie qui, alors c'est déjà trop probablement par rapport à ce que nous pensons, mais c'est relativement faible. Ce qui est important à noter, c'est qu'au cours du XVIIIe siècle, notamment pour la première moitié, parce que la deuxième moitié, il n'y en a pratiquement plus, les gens qui sont condamnés ne sont pas condamnés seulement pour blasphème, pour 80% d'entre eux. C'est-à-dire que le blasphème devient une circonstance aggravante. Par exemple, vous avez trucidé votre belle-mère en blasphémant. Alors ça, évidemment, ça devient beaucoup plus difficile. Et c'est cette association, c'est pour ça que c'est compliqué, même de faire une comptabilité à partir des sources, puisque le blasphème n'apparaît pas pour 80% des cas, probablement, enfin disons les trois quarts, seul. Il est accompagné d'autre chose. Il apparaît effectivement comme quelque chose d'aggravant. Voilà.
Oui, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir quelqu'un qui va être conduit devant les juges juste parce qu'il a prononcé des paroles qui ne conviennent pas comme ça au coin d'une rue rapidement, parce qu'il y a quand même cette idée de récidive qui joue beaucoup dans cette histoire-là. On l'entend, hein, le blasphème, historien, quand vous le recherchez, il est difficile à saisir. Il apparaît comme ça, par petites touches, par petites pointes, au milieu des archives judiciaires.
Oui, tout à fait. Et encore, ça dépend aussi de quel type de justice. Parce que vous savez que sous l'Ancien Régime, vous avez toutes sortes de niveaux de justice, de la justice royale, la justice des parlements, les justices locales. Et celles-ci aussi, parfois, jouent l'une contre l'autre ou ont des intérêts qui font qu'elles surenchérissent sur tel ou tel cas. C'est ce qui s'est passé, par exemple, pour le Chevalier de la Barre.
On entend bien que le chevalier de la barre, c'est ce qui va nous conduire aujourd'hui dans le cours de l'histoire à comprendre ce que signifie être impie au siècle des Lumières. Et pour saisir cette affaire qui a fait tant parler, l'affaire du chevalier de la barre, on est en train de mettre en place tout doucement ces définitions. On voit bien que c'est complexe, hein, la définition même du blasphème, les juridictions qui est concernée. C'est quelque chose d'extrêmement mouvant, cette histoire-là, cette histoire du blasphème. Et puis, vous l'avez rajouté, Valentine Zuber, il y a la pensée qui évolue, hein. Il y a un regard porté par les philosophes. La question du blasphème, c'est plus seulement une question de théologie en XVIIIe siècle. Les philosophes s'en saisissent.
Aussi. Oui, c'est une question, ça devient une question sociale. Les premiers, enfin que ce soit Montesquieu ou des gens comme les frères Grimm, enfin tous les intellectuels européens réfléchissent à cette question de la différence entre ce qui relève des honneurs rendus à Dieu et de la vie sociale.
Là, il y a aussi une grande modification qui va se passer au cours du XVIIIe siècle. Il y a à la fois un phénomène, blasphématoire qui se poursuit. Hein, il y a toujours l'arsenal, etc., qu'on peut réactiver quand on veut, la preuve avec la barre. Et puis, il y a ce que un certain nombre de sociologues ont appelé l'aspect blasphémique, c'est-à-dire les modifications liées au contexte. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle, un certain nombre de philosophes, et pas d'abord Voltaire, mais par exemple, je pense à Bell ou à Montesquieu surtout, hein, que vous avez cité, commencent à s'interroger pour se dire mais qu'est-ce que l'homme pour qu'il puisse offenser Dieu, quoi. Dieu est au-delà de toute offense humaine. Autrement dit, il y a une mise à distance de Dieu qui fait que on ne peut pas non plus considérer les crimes de blasphème comme une espèce de modification du comportement de Dieu à l'égard des hommes. Je veux dire que on blasphème, donc Dieu va punir. Dieu est en colère. Dieu est jaloux. Autrement dit, on accorde à Dieu des qualificatifs humains. Et donc cette transformation de l'anthropisation de Dieu, en fait, est fondamentale. Il y a une autre image de Dieu qui est à la fois, d'un côté, un Dieu plus bienveillant, ce Delumeau a bien montré il y a un certain nombre de temps, et puis de l'autre côté, un Dieu qui est mis à distance par les philosophes. Le blasphème ne peut pas l'atteindre, mais en même temps, cette mise à distance, alors évidemment, ça ne va pas arriver tout de suite dans la société, mais cette mise à distance va créer une espèce de crise dans l'incarnation. En fait, si Dieu est si distant que ça, quel est son rapport avec l'humanité présente? Voilà.
On a envie d'ajouter, mais le roi lui est proche. Et on l'a bien dit, il y a ce lien entre la royauté et la divinité. Donc on est toujours perdant avec cette histoire de blasphème. Les philosophes peuvent réfléchir sur la place de Dieu dans la société, comment un blasphème peut toucher Dieu, mais le blasphème va toujours toucher le roi. On pourrait le dire ainsi?
Oui.
Oui, parce que le roi est lieutenant de Dieu sur terre. Donc c'est lui qui est le plus proche, évidemment, des sujets du roi qui doivent révérence à Dieu. Donc effectivement, tant qu'il y a cette liaison très très forte entre chef politique et chef de l'Église, les blasphèmes peuvent encore atteindre, puisque à travers le crime de lèse-majesté. Lèse-majesté royale peuvent encore atteindre Dieu.
Et c'est ça, avec ces philosophes qui pensent la divinité, et en pensant la divinité, évidemment, ils pensent aussi la royauté. Vu que c'est imbriqué, on comprend bien comment tout ça est un effet domino, en fait. Penser l'un, c'est penser l'autre.
Oui, et il y a en même temps un certain nombre de théologiens, peu nombreux, je vous rassure, qui pensent le blasphème différemment dans l'ordre de la catégorie théologique. Par exemple, je pense à Bergier, Nicolas Bergier, qui est un simple prêtre de campagne qui ensuite aura une carrière, bien sûr, mais qui dit que l'Église dise que les enfants morts sans baptême sont damnés est un blasphème. Autrement dit, il y a une inversion parallèlement à tout ce que vous avez dit, hein, l'un et l'autre, ça ne change rien. Mais il y a aussi un début de réflexion qui est minoritaire d'un certain nombre de théologiens en disant le blasphème, c'est peut-être pas ce qu'on pense. C'est-à-dire que, autrement dit, l'Église elle-même, dans son discours, ben, peut blasphémer. Et quand Berger écrit ça à son correspondant, qui est l'abbé Trouillet, curé de Dornan, Trouillet lui dit, mais malheureux, arrêtez, l'Église est déjà en ruine, si vous commencez comme ça, c'est la fin.
Tout le monde pense au blasphème, hein. On l'entend bien ici, les théologiens bien sûr, les philosophes aussi, les juridictions également, mais les définitions sont vraiment pas les mêmes, les champs sont pas du tout les mêmes, et dans cette réflexion qu'on peut avoir sur la définition sur ce qu'est le blasphème au XVIIIe siècle, il y a celui qui a déjà été cité par deux fois, c'est Montesquieu.
Dans les choses qui troublent la tranquillité ou la sûreté de l'État, les actions cachées sont du ressort de la justice humaine. Mais dans celles qui blessent la divinité, là où il n'y a point d'action publique, il n'y a point de matière de crime. Tout s'y passe entre l'homme et Dieu qui sait la mesure et le temps de ses vengeances. Que si, confondant les choses, le magistrat recherche aussi un sacrilège caché, il porte une inquisition sur un genre d'action où elle n'est point nécessaire. Il détruit la liberté des citoyens en armant contre eux le zèle des consciences timides et celui des consciences hardies. Le mal est venu de cette idée qu'il faut venger la divinité. Mais il faut faire honorer la divinité, ne jamais la venger. En effet, si l'on se conduisait par cette dernière idée, quelle serait la fin des supplices ? Si les lois des hommes sont à venger un être infini, elles se régleront sur son infinité, et non pas sur les faiblesses, sur les ignorances, sur les caprices de la nature humaine.
Thomas Beau qui nous disait cet extrait de l'Esprit des lois de Montesquieu en 1748. Thomas qui réalise l'émission Le cours de l'histoire sur France Culture et qu'aujourd'hui à la technique Anthony Thomasson. Alain Cabantous, très fort ce qui est dit ici par Montesquieu, cette réflexion sur venger l'infinité. C'est très présomptueux. Hein.
Oui, c'est ça. C'est une réflexion qu'un certain nombre de philosophes, que ce soit d'ailleurs en France, dans les pays germaniques ou en Angleterre, vont reprendre continuellement après Montesquieu. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que un des premiers qui a commencé à faire bouger la situation, c'est Pierre Bel. Pierre Bel qui dit à un moment « Le blasphème n'est scandaleux qu'aux yeux de celui qui vénère la réalité blasphémée ». Et ça veut dire qu'il y a là une transformation, c'est-à-dire que ce n'est plus le blasphémateur qui est mis en cause, mais c'est celui qui pense être blasphémé, c'est-à-dire qu'il y a une opération de jugement qui se crée. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait moderne. C'est-à-dire qu'il y a une modification, c'est une autre modification par rapport à Montesquieu. Bel ne se place pas dans le rapport à Dieu, mais se place dans le rapport du blasphémateur blasphémé.
Oui. C'est pas pareil. Pierre Bel, B-A-Y-L-E, c'est un petit peu avant Montesquieu, en plus.
Voilà, hein,
c'est fin du 17e siècle, début du 18e siècle. Hein. Et je suis pas le plus célèbre de tous ces philosophes, mais sachant que tous se lisent, tous se connaissent, se côtoient, échangent, on voit bien hein, cette pensée. Mais il y a ici quelque chose qui ressemble à un grand écart entre la réalité du vécu au moment où passe une procession, comment se comporter, et puis toutes ces réflexions des philosophes. Concrètement, vous nous l'avez dit, il y a très peu de condamnations pour blasphème. Le blasphème, il est là pour ajouter à une peine, pour dire, voilà, ça, c'est vraiment quelqu'un de mauvais, parce qu'en plus, il blasphème. Parce qu'on risque pas grand-chose, en fait, par le blasphème. On peut risquer quoi ? Une amende, ça se passe comme ça ?
Oui, des amendes, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour des contemporains, ou presque contemporains, du Chevalier de la Barre, ou quelques années plus tôt. Mais il y a quand même toute une série de peines qui sont prévues, hein, et qui sont assez barbares, qui sont accompagnées de tortures, par la mise au carcan, pour un premier blasphème, ensuite on peut être condamné au pilori, ensuite pour le troisième blasphème on vous coupe la lèvre du bas, et puis pour le quatrième la lèvre du haut, et le cinquième on vous tue. Donc il y a quand même un raffinement dans les peines qui sont notées par écrit et qui sont réitérées, comme on le disait, à chaque fois.
Mais qui ne sont pas appliquées,
oui.
Alors à ma connaissance, la dernière personne qui a été condamnée à mort pour blasphème, je ne parle pas de la barre, c'est 1724. C'est un homme qui s'appelle L'Herbe. Mais il avait blasphémé, mais il était condamné pour blasphème, pour impiété, pour avoir donné des coups permanents à son épouse. Enfin bon, il y a tout un ensemble. Mais ce que Valentine Hubert dit, c'est effectivement, les peines sont relativement faibles, c'est souvent des amendes, etc. Mais je dirais la panoplie est extrêmement large, hein, puisque il y a aussi la peine de galère, par exemple. Enfin bon, il y a tout un ensemble. Hein, mais c'est vrai que à partir des années, bon, je parle plus de cette condamnation à mort, mais à partir, disons, du deuxième quart du XVIIIe siècle, bon, il y a des gens qui sont condamnés effectivement relativement peu. Hein, mais à des peines souvent pécuniaires, effectivement.
Il faut peut-être rappeler aussi que, à part ces accusations de blasphème, la justice, et on l'a vu à travers l'affaire Callas, par exemple, ou par contumace l'affaire Sirven, la justice emploie encore volontiers ce qu'on appelle la question, hein, c'est-à-dire la torture. Et quand il y a des peines très graves, en particulier d'hérésie ou... Là, peut-être pas de blasphème, enfin si, avec le chevalier de la barre, eh bien, les peines sont physiques, sont extrêmement spectaculaires, et faites pour marquer d'ailleurs les esprits. Et il y a la roue, il y a on se fait battre pour jusqu'à être entièrement démembré. Enfin bon, les cartèlements. Enfin voilà. Donc il y a quand même c'est une justice qui face aux personnes qui sont déviantes et déviantes religieusement et peut-être aussi à partir du blasphème est particulièrement spectaculaire et veut absolument marquer les esprits pour que la population reste dans le droit chemin.
Oui, des peines qui sont vraiment impressionnantes, hein, vous les avez rappelées, Valentine Zuber, et puis vous l'avez souligné, il y a aussi la question, c'est-à-dire on n'est même pas condamné au moment de la question, on est torturé avant pour dire quelque chose. C'est jamais bon, en tout cas, d'être entre les mains de la justice à ce moment-là. Hein. Parce que même le avant est difficile. Mais ce que vous évoquez là, c'est la justice royale. C'est la justice laïque, on va dire. C'est pas la justice religieuse. Non. Moi, je trouve ça vraiment intriguant avec cette histoire de blasphème qu'il y ait si peu de prise de parole de la part des religieux pour condamner. En fait, on sent que ça va très très vite dans la justice.
Il y a tout de même la peine ultime qui, pour nous, ne représente plus grand-chose, mais qui est l'excommunication. Il y a quand même des moyens pour rendre la vie difficile, voire impossible aux personnes qui sont condamnées pour cela. C'est vraiment une exclusion sociale complète. D'être excommunié.
C'est vrai que c'est plus du tout dans nos représentations, mais cette condamnation à être exclue de la société, de la vie, d'être excommunié, c'est très fort. Ça, faut faire des gros blasphèmes, j'imagine, quand même, là.
Oui, mais il y a toujours, malgré tout, dans sa grande bonté, l'Église peut permettre aussi une réintégration. Hein, mais effectivement, la justice, disons, ecclésiastique, non, les officialités ne se saisissent pas de ce délit ou de ce crime de blasphème. C'est toujours, alors c'est soit la justice seigneuriale, soit la justice royale, ça, voilà, donc, que ce soit au niveau de la sénéchaussée ou du bailliage, ou en appel, les parlements.
Ouais.
C'est ce qui se passe avec la barre, hein, de toute façon.
Et de toute façon, pour l'individu qui veut se faire pardonner, alors peut-être pas auprès de cette justice seigneuriale ou royale, mais plutôt du côté de la religion, il y a toujours la confession.
Même si la religion était restée pure, c'est pas ça qui en prouve la vérité.
Bien sûr. C'est bien d'être venu.
Comment bien? Mais c'est ton ennemi que je suis ici.
Je ne crois pas. Il y a longtemps que vous n'êtes plus confessé.
Depuis ma première communion. Mais je ne suis pas en train de me confesser.
Je sais que c'est pas drôle de reconnaître ses fautes devant son prochain.
Drôle ou pas, la question ne se pose pas puisque je ne crois pas en Dieu.
En êtes-vous sûr? Vous ne priez jamais?
Seulement quand je ne peux pas m'en empêcher. Ça doit être un reste des habitudes d'enfance, une faiblesse.
Vous êtes orgueilleuse, n'est-ce pas?
Oui.
Est-ce que vous mentez quelquefois?
Oui.
Vous ne commettez pas de faute contre la pureté?
Je ne sais pas.
Est-ce que vous croyez que vous réalisez au maximum les capacités qui sont en vous?
Non.
Vous venez de faire une bonne confession. Maintenant, il faut demander pardon.
À qui?
À X.
On va rester ainsi jusqu'à la fin du monde.
Allez, deux patères, Quatre Ave Maria et l'affaire est réglée. C'est le film Léon Morin prête. On a reconnu Belmondo, le film de Melville. Alors, c'est un autre contexte, bien sûr. C'est un contexte 20e siècle. Mais l'idée même de la confession, intéressant de réfléchir à ça, de se dire que l'Église peut pardonner. L'Église est là pour pardonner. En revanche, dans la justice, quand on est pris avec une accusation de blasphème, on a du mal à se faire pardonner. Le pardon n'existe pas dans la justice.
On meurt pardonné. Oui.
Ah, c'est pas mal ça.
Oui, on meurt quand même, mais on est pardonné. Ce qui en même temps, est une mesure qu'on prend dans l'esprit du temps, c'est-à-dire que ça ouvre au salut, c'est-à-dire que la personne condamnée ne sera pas en enfer, passera quelques années au purgatoire probablement, avant de peut-être accéder à un meilleur statut.
Mais ça, c'est dans la théologie catholique. C'est pas dans la théologie protestante, puisqu'il n'y a pas de purgatoire. Donc, c'est plus compliqué.
Comment peut-on considérer le regard porté par la justice sur les minorités religieuses? Il y a les juifs, il y a les protestants. Ça pose problème encore au XVIIIe siècle. L'édit de Nantes a été révoqué. Comment ça se passe? Parce que là, tout risque d'être blasphème.
À ma connaissance, mais là je parle sous contrôle, il n'y a pas davantage de poursuites, par exemple contre les juifs ou contre les protestants pour blasphème. Il peut y avoir des poursuites, comme ça va se passer à propos de la barre, si par exemple lors d'une procession, en particulier la procession du Saint-Sacrement, les gens ne se découvrent pas ou ne s'agenouillent pas. En fonction de leur propre croyance ou leur incroyance d'ailleurs, il peut y avoir des poursuites, mais c'est jamais ça peut être une poursuite pour impiété plus qu'une poursuite pour blasphème.
Oui, je pense qu'il faut quand même se rappeler, après la révocation de l'édit de Nantes en 1685, on enferme les jeunes filles ou les jeunes hommes, on les retrait de leur famille, on les enferme dans des couvents, on les appelle les nouveaux convertis. Il y a une sorte de lavage de cerveau, de rééducation qui est effectuée. Donc, je pense que dans le cadre de cette rééducation, on va pas trop insister sur les résistances verbales, etc., mais plutôt sur la manière dont les gens vont intégrer les gestes et le conformisme social de cette religion qu'on les oblige à adopter.
Alain Carmentous, vous l'avez dit.
Oui, dans l'extrait que vous avez passé il y a un instant, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que la confessée dit « je ne crois pas en Dieu ». Et ça renvoie aussi à la question du blasphème. Est-ce qu'un athée peut blasphémer? Ça n'a aucun sens pour lui.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Et donc, là, je me fais l'avocat, non pas du diable, mais des théologiens qui attaquent les philosophes athées en disant « Mais pourquoi vous blasphémez puisque vous ne croyez pas en Dieu ?» Voilà. Donc, or, en fait, la pointe pour eux, c'est pas celle-là. La pointe pour eux, c'est de dire « liberté d'expression, non à l'intolérance ». Non à une église qui nous impose des tas de choses. Mais c'est assez intéressant dans cet extrait de rebondir là-dessus, parce que c'est quelque chose qui va durer surtout au cours du XVIIIe siècle, mais aussi au XIXe siècle. Et ça a été l'interrogation de théologiens en disant, vous ne croyez pas en Dieu, mais pourquoi vous... Si vous blasphémez, ça veut dire que c'est pas Dieu que vous voulez atteindre, c'est les croyants.
Et ça change la donne.
Et ça change tout.
Et puis, vous l'avez dit, le blasphème doit être public. C'est très important, ça. Et on comprend dès lors qu'il n'y a pas de blasphème s'il n'y a pas accusation de blasphème. Une procession, si quelqu'un ne se met pas à genoux, ne se découvre pas, si personne le voit ou personne le dénonce, il n'y a pas de blasphème. Ou si c'est toléré, si on dit « allez, c'est pas grave, ça passe », il n'y a pas de blasphème. C'est ça aussi qui est difficile à saisir, c'est replacer le blasphème dans son contexte, dans la ville, dans le village, à un moment donné, dans une communauté.
Oui, tout à fait. Et on s'aperçoit à travers le procès, les différents procès du chevalier de la Barre, qu'il aurait pu échapper très facilement à cette peine horrible qu'il a subie, parce que effectivement, il y avait toutes ces possibilités sociales de détourner le regard, de ne pas appuyer sur tel ou tel point, et voilà.
on dit teasing, aguichage en français sur le chevalier de la barre, parce qu'on sent qu'il arrive, il arrive. Mais avant qu'il arrive, il y a eu une autre minorité que je voudrais évoquer, qui est aussi accusée facilement de blasphème. Là, ce sont les libertins et les libertines.
Monsieur, que faites-vous dans là avec Charlotte? Est-ce que vous lui parlez d'amour aussi?
Non, au contraire, c'est elle qui me témoignait une envie d'être ma femme et je lui répondais que j'étais à vous.
Qu'est-ce que c'est donc que vous voulez m'attirer?
Elle jalouse de ne pas vous parler, vous voulez dire que je l'épousasse, mais je lui dis que c'est vous que je veux.
Oh! Je voudrais...
Il est obstiné comme tous les diables.
Vraiment?
Ne lui dites rien, c'est une folle.
Je pense...
Cela, c'est une extravagante.
Non, non, il faut que tu vas avoir un peu ses raisons. Quoi?
Je gage qu'elle va vous dire que je lui ai promis de l'épouser.
Mais je...
Gageons qu'elle vous soutiendra que je lui donnais parole de la prendre pour femme.
Oh là, Charlotte, ça n'est pas bien de courir sur le marché des hommes. Ce n'est pas honnête, Mathurine, d'être jalouse que monsieur me parle. C'est moi qui monsieur a vu la première. S'il vous a vu la première, il m'a vu la seconde et m'a promis de m'épouser.
Eh bien, que vous ai-je
dit? Je vous baisse les mains, c'est moi, et non pas vous qui l'a promis d'épouser.
Mais n'ai-je pas deviné?
Est-ce monsieur que vous avez promis de l'épouser?
Vous vous raillez de moi.
Est-il vrai, monsieur, que vous lui avez donné parole d'être son mari?
Pouvez-vous avoir cette pensée?
Vous voyez qu'elle le soutient.
C'est l'affaire.
Vous êtes témoin comme elle l'a su.
Laissez-la dire.
Non, non, il faut savoir la vérité. Il est question de juger ça. Oui, Mathurine, je veux que monsieur vous montre votre bec jaune. Oui, Charlotte, je veux que monsieur vous rende un peu camille. Monsieur, videz la querelle, s'il vous plaît. Mettez-nous d'accord, monsieur.
Vous allez voir.
Vous allez voir vous-même. Vite, parlez.
Eh ben voilà, je parle. Françoise Caillou et Mathurine, Michel Piccoli et Don Juan dans ce téléfilm de 1965. Les festins de Pierre, c'est Don Juan, c'est évidemment inspiré de Molière. C'est libertin, c'est libertine. Et on sait qu'au XVIIIe siècle, alors là, bon, ça a fasciné, ça fascine encore. Ils sont facilement accusés de blasphème. C'est du
oui,
blasphème.
Parce que on retient actuellement une image de libertin libertine, justement, ce qui est illustré dans cet extrait. Mais être libertin, c'est aussi avoir une certaine liberté par rapport au conformisme social et en particulier à la croyance en Dieu et à la pratique religieuse. Et c'est beaucoup plus pour ça que ces personnes sont scandaleuses. Et dans la pièce de Molière, c'est mis tout à fait en évidence dans une des tirades finales de Don Juan qui vraiment affronte la divinité et se met en face à face et d'égal à égal. Et cet orgueil humain, évidemment, est profondément combattu par les religieux qui considèrent que c'est absolument insupportable et que c'est le début, si vous voulez, aussi du délitement de cette société d'ordre qui va finalement aboutir, évidemment, à la Révolution française.
À la Cabantous.
Oui, alors les libertins, c'est ceux qui subissent les foudres de la justice, c'est plutôt au XVIIe siècle quand même. Je pense à Vanini, je pense à Théophile de Viau, qui ont payé presque de leur vie, les deux, d'être libertins, c'est-à-dire d'être un croyant en définitive. C'est pas simplement la question du blasphème. Et Don Juan, par rapport à tout ce que nous avons entendu et tout ce que vient de dire Madame Zuber, Don Juan, c'est celui qui demande à Sganarelle de se renier à un moment. Autrement dit, il lui dit pas blasphème, il dit mais jure. Et l'autre dit non, je ne peux pas. Autrement dit, Don Juan est aussi présenté comme celui qui incite au péché, qui celui qui incite au blasphème. Et donc, il y aura une résistance de son serviteur, mais ça montre bien comment, en fait, l'image du libertin est effectivement une image de quelqu'un qui est marginal et qui revendique cette marginalité par rapport aux structures mentales du moment.
Je crois qu'on a tous les éléments qui sont en place. Hein, ça y est, on a ces tentatives de définition du blasphème. On a mis en place aussi le panorama de la justice, du regard des autorités, qu'elles soient laïques, qu'elles soient religieuses, sur le blasphème. On a parlé du libertinage, je crois qu'il peut arriver maintenant. Voici le chevalier de la barre. Alors, qu'est-ce que cette histoire du chevalier de la barre? Quelle affaire autour du blasphème, du libertinage? On peut rappeler les faits? Qu'est-ce qui se passe?
Oui, alors les faits, c'est quelque chose d'assez simple. Hein. Dans la nuit, enfin le matin du 6 août 1765, à Abbeville, des passants constatent qu'un crucifix qui est posé, qui a été déposé sur un pont, a été lacéré, et simultanément ou presque, qu'un autre crucifix qui est dans le cimetière a été maculé avec des excréments. Donc, évidemment, émoi dans cette ville, assez vite, la justice est saisie, et assez vite aussi, bien, on désigne une bande de jeunes qui, voilà, qui font partie d'ailleurs de la bonne société, hein, abbevilloise, on les désigne comme étant les responsables de ces sacrilèges. Pas de blasphème.
Oui, sacrilège, c'est crucifix.
C'est sacrilège. Oui. Bon. Et il y a une enquête qui est menée. Il y en a un qui réussit à partir, et puis ben, les autres sont, comment dirais-je, sont arrêtés, prises de corps. On fouille notamment chez la barre qui vit chez sa tante, qui est une abbesse, hein, Madame de Feydeau. Et là, on trouve chez lui le dictionnaire philosophique de Voltaire, des lettres ou des livrets avec des chansons, disons, pornographiques ou des textes pornographiques. Et l'affaire s'enclenche. Autrement dit, à partir de ce moment-là, la barre va être condamnée avec un de ses acolytes, hein, Moinel, et il va être condamné à mort. Et comme il est noble, il va faire appel auprès du Parlement de Paris. Et là, le Parlement de Paris va confirmer la condamnation à mort de la barre. Ça, ce sont les faits. Et au-delà des faits, il y a évidemment beaucoup d'autres choses.
Ah oui, mais c'est tellement riche cette histoire-là, l'affaire du chevalier de la barre. Vous racontez comme ça, profanation de deux crucifix à Abbeville. Là aussi, c'est important, hein, de le rappeler, le contexte dans lequel se passe cet événement. Et puis, la condamnation, est-ce que l'on peut dire qu'avec cette affaire-là, nous sommes sur quelque chose de complètement en marche, qui peut même étonner les contemporains ?
Ah bah c'est un véritable scandale public, hein, auprès des intellectuels qui se saisissent de cette affaire, et ça bruisse dans toute l'Europe sur cette condamnation qui paraît complètement anachronique et dépassée, et surtout qu'elle ait été exécutée. Enfin, il y a vraiment là un motif d'indignation majeur.
Alors, je pense que le chevalier de la barre, c'est quelqu'un qui s'est trouvé à un endroit, à un mauvais endroit, à un mauvais moment. Alors, il est victime, en fait, d'un contexte qui le dépasse complètement. Et ce contexte qui le dépasse complètement, évidemment, va aboutir à sa condamnation à mort. Et le bourreau, dans toute sa clémence, ne va pas lui couper la langue comme c'était prévu.
Sympa.
Donc, c'était encore une des peines dont vous parliez tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est que effectivement, ça va dépasser la barre, et grâce à Voltaire, qui va reprendre l'histoire et qui va en faire, je reprends les mots d'Elisabeth Clavery, qui va en faire d'un procès une affaire et de l'affaire une cause. Et c'est, je dirais, un système qui aujourd'hui est permanent. Hein, une affaire, un procès devient une affaire et l'affaire devient une cause. Et du coup, effectivement, ce pauvre Labarre, soit sur le plan local, soit au niveau du Parlement, va être victime de conflits d'intérêts entre les uns et les autres.
Ouais, ça explique sa condamnation.
Jurez sur la Bible de dire toute la vérité.
Je jure.
Combien de temps avez-vous habité le couvent des dames religieuses d'Abbeville ?
3 ans et demi.
Connaissiez-vous Gaillard d'Étalonde ?
Oui.
Étiez-vous en liaison avec lui ?
Je le voyais quelquefois.
Étiez-vous avec lui lorsqu'il a mutilé le crucifix du pont neuf d'Abbeville ?
Non.
Avez-vous porté des coups de canne à ce crucifix ?
Non.
Avez-vous chanté des chansons impies et blasphématoires ?
Étant ivre, j'ai un jour chanté une chanson sur Marie-Madeleine.
Ah. Est-il vrai que dans cette chanson, Marie-Madeleine est traitée de putain ?
N'était-ce pas son métier ?
Vous êtes le prince des démons ! Avez-vous profané le signe de la croix ?
Non.
Avez-vous prononcé des paroles impies en buvant du vin ?
Non.
Avez-vous tenu des discours contre la religion ?
Non.
Aviez-vous chez vous plusieurs livres interdits ?
Quelques livres.
En avez-vous prêté à quelques personnes ?
J'en ai prêté à ceux qui me les ont demandés.
Est-il vrai que vous possédiez le dictionnaire philosophique écrit par Monsieur de Voltaire ?
Oui.
C'est bon ?
Ah bah là, c'est bon. ça y est, c'est réglé. Hein. C'est à l'affaire du Chevalier de la Barre présentée sur France Culture en 1984. On l'entend bien ici, hein. Il y a tous ces éléments. Il n'a pas fait grand-chose en soi, c'est un jeune homme de son temps, mais les charges s'accumulent, notamment avec ce dictionnaire philosophique.
Oui, oui, oui. Et puis je pense que la pensée des philosophes et d'un Voltaire particulier apparaît menaçante pour le pouvoir. Hein, la surréaction, elle est aussi en raison de cette éventuelle dissémination de ces idées nouvelles dans la population, et en particulier dans les classes supérieures. Et je pense que cette peur, elle est à raison. Donc on est là vraiment aussi dans un procès politique.
Oui, parce que l'exécution, c'est juillet 1766. Cette exécution, bien sûr, elle est politique, parce que depuis le début de cette émission, nous essayons de définir le blasphème. C'est pas religieux, on l'entend bien, c'est une question politique. Et la religion et le politique sont mêlés. Juste comment on peut expliquer cette sévérité à ce moment-là, au-delà même de ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire une réaction à tout ce qui se passe de la part des philosophes. Le fait que ça se passe à Abbeville, que le Parlement de Paris n'arrive pas à contredire une autre décision de justice, cela c'est très sévère quand même.
Oui, mais une fois de plus, hein, il faut revenir sur le contexte. C'est-à-dire que le procès d'Abbeville, c'est le procès de la Barre, mais c'est aussi l'opposition entre deux groupes. Et notamment, alors pour des raisons à la fois, même pour des raisons économiques, hein, je peux pas développer là, mais il y a un conflit entre les gens qui sont favorables aux corporations et les gens qui sont favorables à la grande entreprise Van Robeck, qui est la manufacture très importante d'Abbeville. Enfin, bon, autrement dit, la Barre est prise dans dans une situation locale qui met aussi sa tante en avant, hein, sa tante qui le défend.
La baisse,
qui est comment dirais-je, qui est quand même apparentée aux d'Ormesson, et donc très grande famille de la magistrature. Et elle va, d'ailleurs, Madame de Feydeau, donc la baisse, va faire tout ce qu'elle pourra lorsque la Barre va faire appel, pour demander à d'Ormesson, qui lui est membre du Parlement de Paris, de demander à Joly de Fleury, qui est procureur général, de reconsidérer le dossier, comme vous avez dit, qui est relativement vide. Pourquoi ? Parce que elle dit que son neveu, dans la nuit où il y a eu cette profanation des crucifix, était au couvent, donc il n'a pas pu le faire, la Barre qu'on accuse de ne pas s'être
découvert
au moment de la procession. La Barre dit c'est pas possible parce que j'étais en avant de la procession, donc je courais et donc j'ai pas vu le Saint-Sacrement passer. La question du blasphème se pose effectivement aussi, mais s'il y a blasphème, il n'est pas public. Il est privé, puisque ça se passe dans sa chambre ou dans la chambre d'amis, etc. Donc, tous les motifs d'accusation sont mis en avant, notamment par elle, et puis par un avocat qui s'appelle Linguet, qui va faire, je dirais, lui aussi, de cette histoire-là. Il est à Abbeville même, et il enquête, et effectivement, c'est quelque chose qui apparaît complètement aberrant. Ça, c'est du point de vue local, mais du point de vue, excusez-moi d'être un peu long, mais du point de vue du Parlement de Paris, il y a une opposition aussi considérable. Le Parlement de Paris, il ne faut pas l'oublier, à ce moment-là, c'est un des 13 parlements, c'est pas, il y a plusieurs parlements, mais il vient d'obtenir l'expulsion des jésuites. Et il veut quand même montrer au roi que ce parlement n'est pas gangréné par un jansénisme politique, ce sont de bons catholiques. Alors que le roi souhaite une punition de la Barre. Donc il y a un rapport entre le Parlement et le roi qui fait que la Barre ne peut être que condamnée, définitive.
Ouais, Valentine Zuber, c'est vraiment ça. Elle était là au mauvais moment, ce pauvre chevalier de la Barre. Mmh.
Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que, en dépit de cette cause défendue par les philosophes, et en particulier par Voltaire, il ne sera pas réhabilité par le roi. Donc, ça reste une condamnation, évidemment à la fois terrible et infamante, qui va persister. Il faudra attendre 1793 pour que le gouvernement révolutionnaire décide de réhabiliter donc ces victimes de l'absolutisme.
Oui, parce qu'il y a cet écho, et on l'a bien dit, hein, cette histoire d'un procès qui devient affaire et puis qui devient cause. Et cette cause, c'est celle de Voltaire, l'exécution du chevalier de la Barre à Abbeville. C'est en juillet 1766 et ce même mois, Voltaire prend la plume.
Frère d'Ami Laville, vous a communiqué sans doute la relation d'Abbeville, mon cher philosophe. Je ne conçois pas comment des êtres pensants peuvent demeurer dans un pays de singes qui deviennent si souvent tigres. Pour moi, j'ai honte d'être même sur la frontière. En vérité, voici le temps de rompre ces liens et de porter ailleurs l'horreur dont on est pénétré. Je n'ai pu parvenir à recevoir la consultation des avocats. Vous l'avez vu sans doute et vous avez frémi. Ce n'est plus le temps de plaisanter. Les bons mots ne conviennent point au massacre. Quoi ? Des busiris en robe font périr dans les plus horribles supplices des enfants de 16 ans ? Et cela malgré l'avis de 10 juges intègres et humains. Et la nation le souffre. À peine en parle-t-on un moment, on court ensuite à l'opéra comique. Et la barbarie, devenue plus insolente par notre silence, égorgera demain qui elle voudra juridiquement. Et vous surtout, qui aurez élevé la voix contre elle 2 ou 3 minutes.
Voltaire qui écrit Adam Lambert au moment de l'exécution du chevalier de la Barre. C'est une lecture de Raphaël Laloum dans le cours de l'histoire. Là, ça y est, on l'a, la cause. Hein.
Oui, et ce qui est très intéressant, c'est que ce dictionnaire philosophique, il est paru en 1764, donc deux ans auparavant. Le chevalier de la Barre est donc assez au courant des nouveautés et de la pensée en train de s'élaborer dans son pays. Ça, c'est donc quelqu'un de plutôt cultivé, jeune, mais en train de se cultiver. Et à l'article Torture de ce dictionnaire philosophique, Voltaire reprend cet argument un peu de cette accoutumance que l'on peut avoir face aux tortures, etc. Il va rééditer ce dictionnaire philosophique en 1769, donc quelques années après. Et là, il va modifier son article et ajouter cette histoire du chevalier de la Barre. Donc c'est quelque chose vraiment qui va devenir emblématique. Et enfin, il faut ne pas oublier que lors de l'exécution du chevalier de la Barre, le dictionnaire philosophique de Voltaire, lui appartenant, a été posé ou cloué, les versions diverses, sur son corps au moment de son bûcher.
Oui, parce qu'il a été décapité, c'est un noble, et après le corps est brûlé, donc avec le dictionnaire philosophique de Voltaire. Oui. Lourd de sens. Hein.
Alors, ce qui est intéressant dans la réédition du dictionnaire philosophique de 1769, c'est qu'effectivement, à l'article torture, il ajoute ça, et il fait un article blasphème qui n'existait pas en 1764. Et dans cet article blasphème, qui est vraiment de la veine voltairienne la plus pure, ce qu'il met en cause, c'est à la fois l'arbitraire des peines. En disant, de toute façon, il n'y a pas de code pénal, donc c'est l'arbitraire des peines. Et aussi, je dirais, le relativisme du blasphème, à la fois géographique et religieux. Et il donne un exemple entre deux religieux, un cordelier qui accuse un dominicain de mettre en valeur ce qui sera plus tard l'Immaculée Conception, en disant ils blasphèment tous les deux. Quoi. Voilà. Autrement dit, même à l'intérieur du catholicisme, la dimension blasphématoire existe entre deux religieux.
Et puis nous changeons d'échelle facilement, hein, Abbeville dans la Somme, le Parlement de Paris, et puis la Nation, et puis l'Europe aussi, parce que vous l'avez déjà dit, c'est l'Europe entière qui regarde cette affaire-là. Il y a une différence sur la manière de traiter le blasphème dans ces différents pays d'Europe, c'est de l'histoire comparée, c'est très difficile, mais c'est aussi un peu ce regard porté par les philosophes, de dire ce qui se passe ici ne se passe pas ailleurs, alors que normalement la religion est universelle.
Il n'y a pas vraiment de différence à la fois dans l'appareil judiciaire. Si on prend l'exemple de l'Angleterre ou de l'Allemagne, par exemple, des pays germaniques plutôt, il n'y a pas non plus de différence dans l'affaiblissement de la poursuite des blasphémateurs. D'ailleurs, entre parenthèses, ce sont à 95% des hommes, en général. Pas de femmes. Donc, si on veut faire l'histoire genrée, là, c'est le moment. Et, Et en même temps, effectivement, il y a une réflexion des élites, que ce soit en France, en Angleterre ou dans les pays germaniques, sur cette question qu'on posait tout à l'heure sur le rapport à Dieu et au blasphème. Donc il y a tout un ensemble, et c'est ce qui fait que la réaction internationale existe, mais une fois de plus, c'est une réaction élitaire, hein. Faut pas se tromper, je veux dire, je ne sais pas s'il y a eu des études de fait sur la réception de la mort du chevalier de la Barre, de son exécution en barbare, au fin fond de la Bretagne ou au fin fond de la Provence. Je ne sais pas. Peut-être, mais je sais, peut-être les études existent, j'en sais rien, mais il faudrait savoir ça aussi.
Valentine Zuber, cette longue histoire, c'est ponctué de moments qui nous servent de référence, bien souvent chronologiques, mais ça permet de construire un long cheminement, celui par exemple de la laïcité. Je dis ça parce que vous êtes l'autrice de La laïcité en débat, au-delà des idées reçues. La laïcité, c'est quelque chose de beaucoup plus tardif. Mais cette longue histoire-là, elle se tire sur ces différents moments de la pensée.
Ah oui, des différents, de cette sécularisation, nous dirions en tant qu'historien de la laïcité, de la pensée qui est tout à fait effective là à cette fin du XVIIIe siècle et qui aboutit très vite puisque finalement sous la Révolution française, à travers l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il n'y a plus possibilité de blasphème. La religion est ravalée au rang d'opinion, ce qui est presque un blasphème déjà à l'époque, hein, mais donc la religion est une opinion parmi les autres et elle bénéficie de la même liberté d'expression et donc le blasphème est devenu un crime uniquement religieux et un crime imaginaire.
Oui, c'est ça.
Alors oui, et en même temps, au moment de la Révolution française, bon, effectivement, plus de blasphème, sauf que quand on lit les discours des différentes assemblées jusqu'en 95, on est accusé de blasphème contre la nation, contre le peuple, contre la République. Autrement dit, il y a une espèce de réitération du crime de blasphème et il y a même, un membre d'une société jacobine qui voulait rétablir contre les blasphémateurs politiques cette fois-ci, mais sacrés, il y a une sacralité aussi, une peine extrêmement forte. Donc il y a une espèce de manipulation politique du blasphème, ce qui fait que on peut le comprendre. Ces gens-là ont été éduqués dans une culture où le blasphème était important. Ils ne vont pas modifier complètement les choses.
Oui, mais il n'y a plus de législation.
Non, il n'y a plus de législation, c'est sûr. Mais quand on lit ces discours, le mot blasphème, blasphématoire, c'est, je ne dis pas permanent, mais extrêmement souvent utilisé.
Oui, mais ça, on l'entendra même pendant la révolution bolchevique, enfin, et dans oui, ce genre de...
Mais c'est vrai voilà. Que le succès d'un mot, alors que la juridiction n'est plus là pour appliquer une sanction, c'est drôlement intéressant. Et puis, on voit bien que ce mot-là, aujourd'hui, est de nouveau très présent dans notre actualité, mais il n'a plus le même sens. Hein. C'est cette plasticité du mot blasphème que vous nous avez présenté tous les deux dans le cours de l'histoire, principalement pour le XVIIIe siècle. Merci beaucoup, Valentine Zuber. Je rappelle, hein, la laïcité en débat, c'est publié par le Cavalier Bleu. Et vous, Alain Caban, tous, évidemment, votre histoire du blasphème en Occident. Et puis, l'histoire de la petite église en France, ça c'est le XIXe siècle et jusqu'au XXe siècle, c'est cette étonnante petite église. En tout cas, l'histoire du blasphème devient de plus en plus claire grâce à vous. Merci à tous.
Merci.
Merci.
Grâce au ciel, notre siècle peut s'honorer d'avoir commencé à chasser la barbarie de nos prétoires, d'avoir œuvré à une justice qui fut véritablement juste.
La postérité nous en sera peut-être reconnaissante, qui sait. Plus jamais de la barre. Qu'on donne son nom aux places de nos villes pour rappeler à tous quelle fut la barbarie de notre temps. Qu'il soit donné au chemin tranquille qui longe nos églises. Que notre mémoire n'oublie pas sa fragile jeunesse sacrifiée. Qu'il en soit ainsi.
Qu'il en soit ainsi.
Qu'il en soit ainsi.
Qu'il en soit ainsi.
Voilà, le chevalier de la Barre depuis réhabilité. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Jeanne Copper, Raphaël Laloum, Chloé Rouillon et Maïwenn Guizhou. Le cours de l'histoire est à retrouver, cette émission et toutes les précédentes, sur notre site franceculture.fr et bien sûr sur l'appli Radio France.